Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute littérature. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Clément Daté, réalisation Guillaume Baldi. Autour de moi, Lucille Como, Raphaël Deris, Elisabeth Philippe et Étienne de Montetti. Pour une émission donc un peu particulière, puisque nous allons parler des livres lauréats des prix Goncourt, Renaudot, Femina et Médicis. À notre sommaire donc, Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu chez Actes Sud, Idiotie de Pierre Guyotat chez Grasset, Le Sillon de Valérie Manteau aux éditions Le Tripode, Le Lambeau de Philippe Lançon chez Gallimard. Peut-être quelques autres livres qui se glisseront dans notre discussion. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour le film High Life de Claire Denis, qui sort aujourd'hui sur les écrans. Nous parlerons dans la dispute vendredi. Et nous ouvrons cette dispute avec le plus attendu des prix littéraires, le prix Goncourt. C'était ce truc qui passait en boucle sur M6. En général, ça donnait envie de casser une guitare ou de foutre le feu à son bahut, mais là, au contraire, chacun se recueillit. C'était presque encore neuf, un titre qui venait d'une ville américaine et rouillée pareil, une ville de merde perdue très loin là-bas où des petits blancs crades buvaient des bières bon marché dans leurs chemises à carreaux. Et cette chanson, comme un virus, se répandait partout, où il existait des fils de prolos mal fichus, des ados véreux, des rebuts de la crise, des filles mères, des releleux en mob, des fumeurs de shit et des élèves de SECPA. À Berlin, un mur était tombé et la paix déjà s'annonçait comme un épouvantable rouleau compresseur. Dans chaque ville que portait ce monde désindustrialisé et univoque, dans chaque bled déchu, des mômes sans rêve écoutaient maintenant ce groupe de Seattle qui s'appelait Nirvana. Ils se laissaient pousser les cheveux et tâchaient de transformer leur vague à l'âme en colère, leur déprime en décibels. Le paradis était perdu pour de bon. La révolution n'aurait pas lieu. Il ne restait plus qu'à faire du bruit. Anthony suivit le rythme avec sa tête. Ils étaient 30 comme lui. Il eut un frisson vers la fin. Et puis ce fut tout. Chacun pouvait rentrer chez soi. Tête qui bouge dans le studio. Je sais que c'est peut-être Étienne de Montetti qui est le plus grand amateur de ce type de musique. Ça, c'est parce que je lis ses romans. Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu chez Actes Sud, prix Goncourt 2018, dont je viens de lire un court passage. Et comme pour chacun des livres lauréats, ce soir, Lucille Como nous a préparé une sorte d'introduction à notre discussion.
Oui, c'est le deuxième roman de Nicolas Mathieu, hors littérature policière d'où il vient. Le précédent s'appelait Aux animaux la guerre, ça avait été déjà un roman assez remarqué. Donc c'est un grand roman, près de 400 pages, dont l'action s'étale sur 4 années, 4 étés en fait, plus particulièrement entre 92 et 98, dans une vallée abandonnée de l'Est de la France de la petite classe moyenne qui s'appauvrit, de la crise de l'emploi, des étés d'ennui et du trop d'alcool concentrés autour d'un héros, un jeune garçon, Anthony, et puis un cousin, des jeunes filles et des caïds aussi. Alors c'est encore un roman paru chez Actes Sud pour le Goncourt, du coup on n'y croyait pas trop précisément pour cette raison-là, puisque c'était Éric Vuillard l'année dernière déjà chez la même maison. La presse a souligné dès sa parution beaucoup de qualités du livre, des qualités d'écriture, sa capacité à évoquer l'adolescence, les peaux qui se rapprochent, je cite le journal Le Monde. Le Figaro a parlé de fresque sociale, Le Point parle lui carrément du Balzac du 21e siècle. Et pour les Inrocles, si ce livre est une tragédie sociale française et politique, politique, il est surtout une ode sublime aux illusions et aux élans d'une jeunesse qui ne dure jamais. Donc la presse est assez enthousiaste et souligne l'énergie dans l'écriture et la richesse de la narration, avec à chaque fois sous les plumes cette sorte de balance entre deux genres qui dans le fond se sont toujours bien accordés, le roman d'apprentissage et le roman social, et puis l'idée que peut-être c'est un choix politique de la part du jury du Goncourt. Alors est-ce que c'est le cas pour vous ?
Alors, on va prendre le temps d'abord parce que c'est le Goncourt, et puis dans les quatre livres au sommaire ce soir, c'est le seul qui n'a pas fait l'objet précédemment d'une dispute. On pourra parler des autres, mais alors qu'a dit le Figaro, vous me rappelez ?
Une grande fresque sociale.
Alors, Étienne de
Montetti. Très enthousiaste, hein, le Figaro en
oui.
particulier.
Mon camarade Sébastien Lapac qui probablement était intéressé par le fait que l'auteur effectivement venait du monde du roman policier, et donc savait... mettre en place des scènes, ça avait une énergie, une efficacité, et je pense que c'est un mot qui est important quand on lit ce livre, pour montrer quelque chose. Le Goncourt revient à une vocation qui est celle de son origine, qui est les romans, peut-être pas du naturalisme, enfin du réalisme quand même, avec effectivement cette vallée qui a été, qui n'est plus guère, et l'auteur montre bien qu'on passe d'une ère à une autre, d'une ère non pas industrielle, parce qu'elle est déjà ancienne, d'une ère post-industrielle à une ère davantage ludique, puisque les hauts fourneaux ont laissé la place plutôt à un lac de loisirs. Et puis également, la lutte politique a été quand même au cœur de cette région de la Lorraine, de la lutte des classes, et remplacée, notamment dans la deuxième partie du livre, par un nouveau tempo, qui est celui de la Coupe du Monde de football de 98. Donc tout ça, c'est effectivement très très présent. Il y a une époque, évidemment, c'est peut-être la qualité et aussi la faiblesse du livre, c'est vraiment ces années 90, par la musique qu'on vient d'entendre, effectivement, par beaucoup de références, de marques, d'habitudes qu'on a eues à l'époque, donc c'est extrêmement daté, c'est à la fois intéressant, ça a quelque chose d'un tout petit peu périssable, il y a un vocabulaire qui a peut-être déjà vieilli, mais c'est un livre qui m'a beaucoup plus parce que là, ce qu'on aurait pu imaginer comme quelque chose de triste ou de glauque, de la lamentation, pas du tout. Il y a une énergie, il y a même si les personnages sont finalement assignés à leurs conditions, hein, puisqu'à la fin, je ne sais pas s'il faut raconter la fin, il n'y a pas de criminel, mais
non, il ne faut pas.
Il y a quand même ces personnages, quelle que soit la médiocrité ou la comment dirais-je, le caractère un peu ordinaire de leur existence, ne sont pas des personnages tristes. Il y a beaucoup d'énergie chez eux, c'est le propre de l'adolescence, et ça se traduit notamment dans le style qu'emprunte Nicolas Mathieu pour raconter son histoire.
Bon, on reviendra sur la question vraiment politique, hein, que pointait Lucille Gaumont, mais je fais quand même un premier tour de table. Comment a été accueilli dans les colonnes du Monde, Raphaël Léris, ce roman de Nicolas Mathieu ?
Par une une de Macha Seri le 12 septembre. C'était un de ses très grands enthousiasmes de la rentrée qui était plutôt partagé dans la rédaction, et que je partage aussi. Alors je ne crie pas au chef-d'œuvre, mais je suis très épatée par ce texte. Alors sur la question du roman politique, peut-être... Pour moi, c'est un texte qui a une écriture assez impressionnante, qui n'en fait pas des caisses, mais qui sait trouver des images et développer une langue qui existe réellement, qui est remarquable. Enfin, qui est remarquable au sens que l'on remarque, qui n'est pas du tout une langue standard, qui a une composition qui marche très bien. Donc cette division en chapitres liés aux étés qui permet de refuser le misérabilisme parce qu'on ne comble pas les trous entre les étés. Donc pour moi, ça participe d'une absence de pathos qui fait aussi partie des qualités de ce texte. Donc c'est un roman romanesque et très tôt dans les listes, les Goncourt ont manifesté l'envie de récompenser du romanesque. C'est le roman de quelqu'un qui a un univers, une langue, alors une ambition sociale. Je ne sais pas si c'est un grand roman. J'ai pas l'impression que ce soit un grand roman politique. Parce qu'en fait, dès le titre, c'est dit, c'est leurs enfants après eux. Il n'y aura pas de révolution là-dessus. Il y a une forme de désespoir. Donc, je ne sais pas à quel point on peut en faire un roman politique. Mais donc, pour moi, c'est un choix plus littéraire de la part des Goncourt que politique.
Avant d'entendre Elisabeth Philippe, précision, Lucille Gaumont.
Non, mais ça peut être très politique, justement, de constater l'échec total de la révolution. Moi, je trouve qu'il y a une tristesse qui est quand même assez.
Oui, oui.
Engagé, non, certains
mais
points de
dès
vue.
Dès le titre, il n'y a pas d'espoir. Enfin, vous voyez, il n'y a même pas de possibilité d'imaginer autre chose que de l'échec des titres.
Mais c'est un jugement politique, ça.
Oui, bien sûr que c'est un jugement politique. Bon, bref, on y reviendra, pardon, Elisabeth.
Venons à L'Obs et à son accueil de celui de Nicolas Mathieu.
L'Obs est également très enthousiaste, sachant qu'il y a un petit lobby lorrain au sein de ce journal et qui s'est emparé immédiatement de cet auteur né à Épinal et qui évoque donc une jeunesse de l'Est de la France. Je suis un peu comme Raphaël. Moi aussi, j'ai aimé ce livre sans crier au chef-d'œuvre. C'est un livre dont j'admire, dont j'apprécie énormément l'énergie, la façon notamment extrêmement juste, je trouve, dont il évoque l'adolescence. C'est vraiment, on a affaire à des corps en tension. Je trouve notamment, c'est un roman très charnel, avec pas mal de scènes de sexe qui sont très réussies. On a vraiment tous ces adolescents issus de milieux très différents, dans une ville de province, dont ils sentent la pesanteur et dont ils souhaitent s'échapper à tout prix. Tout ça est extrêmement bien restitué. C'est un roman de par ses références musicales et culturelles. On entendait Nirvana, qu'on pourrait qualifier de roman grunge, et on ne s'attendait pas à ce que l'Académie Goncourt, malgré la présence de Virginie Despentes en son sein, salue un tel roman. Mais ce qui était assez drôle, j'étais chez Drouan à midi pour la remise du prix, et tous se gargarisaient, les jurés du prix Goncourt, d'avoir salué la modernité, le contemporain. On avait l'impression qu'ils utilisaient un élément de langage, vous savez, comme les ministres quand ils sont un peu en difficulté. Et donc, ils n'avaient pas assez du mot modernité à la bouche. Et eux qui sont effectivement, qui ont souvent salué des romans historiques, on sait que l'an passé, donc, c'était Éric Vuillard avec la Deuxième Guerre mondiale. On aurait pu penser que David Diop avec Frères d'âmes, qui parle de la guerre de 14-18, s'inscrivant donc dans l'itinérance mémorielle, très à la mode ces temps-ci, avait tout pour lui pour remporter le prix. Et donc, non, les jurés, les punks du Goncourt ont choisi de saluer Nicolas Mathieu, qui, à mon sens, était peut-être des quatre finalistes, c'était celui que je préfère, en tout cas, qui avait ma préférence.
Oui, dans les quatre qui restaient. Au fur et à mesure de l'éviction des autres de la liste. Mais le cas David Diop, on espère en faire le post scriptum de cette émission. Mais comme ça, il y a un petit effet d'appel, parce que c'est vrai que ce frère d'armes a été finaliste de toutes les listes et repart, fini cette semaine. Bredouille, je suis étonné par cette histoire de modernité, parce que, alors pour le coup, deux livres d'Actes Sud couronnés d'une année et l'autre, pour moi, sont des opposés absolus, et que la modernité, elle est quand même du côté de Vuillard, à l'évidence. Et je pense que ce choix aujourd'hui de récompenser ce livre, qui moi aussi, alors moi, il m'en reste une centaine de pages à lire. Voilà. J'ai lu tout Paul Gréveillac, que j'ai beaucoup aimé. Non, mais c'est vrai, en fait. Mais bon, ça, c'était un autre des finalistes, Maîtres et Esclaves. Je comprends très bien l'engouement que peut susciter ce livre, qui se lit d'abord admirablement bien. C'est une grande fluidité. Moi, j'étais très sensible à cette dimension très incarnée, avec des personnages qui existent vraiment, ce que le roman français n'est pas, c'est pas la qualité première du roman français habituellement. Et donc, moi, je savais pas qu'il avait écrit des romans policiers, Nicolas Mathieu.
Un roman policier.
Ah, un seul. Ah, d'accord.
Le premier est un roman policier. C'est titre-là.
Ah, d'accord. Je crois qu'il avait d'abord écrit des polars.
Non, comme
en son temps, Daniel Pénac, qui était passé de la collection noire à la blanche chez Gallimard.
Aux Animaux la guerre, qui était quelque chose, qui était un polar.
Il sera en série sur France 3 dès la semaine prochaine. Ils sont contents. À France 3, ils ont un bel effet d'annonce. Ils ont bien raison de le faire. Et puis bon, moi, je suis sensible évidemment à cette BO. Vous vouliez dire.
Oui, juste une petite chose par rapport à Drouan. Je crois qu'il y a eu un débat au sein du jury, ce que mes camarades qui étaient chez Drouan ce matin m'ont dit, c'est qu'il y a eu un débat sur tous ces livres avec une thématique de la guerre. Donc c'est uniquement chronologique leur réflexion. C'est-à-dire, on a couronné l'art français de la guerre, on a couronné Pierre Lemaitre sur la guerre de 14, on est Vuillard dont l'arrière-plan était quand même les années 30.
Rouault,
il y a fort longtemps. Bah, et il y a eu, de la part d'une partie du jury, l'idée qu'il fallait peut-être revenir à des livres plus contemporains, peut-être pas modernes, mais contemporains. Et donc ce mot de modernité, peut-être pas forcément bien choisi, effectivement, c'était pas la réponse au débat qui avait eu lieu sur les romans de guerre.
Lucille, comment ?
Mais c'est drôle justement que ce mot de modernité ait été employé, puis on en reparlera peut-être à propos du livre de Guyota, mais moi ça me paraît être un roman très classique, enfin vraiment de facture très classique, et qui justement par la réussite, ce dont vous parliez de l'incarnation des personnages, qui est parfaitement réussi, rappelle ce que le grand roman français, justement, du 19e savait faire précisément sur les personnages des classes populaires, et de fait, le Goncourt, au départ, c'est ça. C'est récompenser des jeunes romanciers qui savent écrire ce type de roman.
Donc, ça me paraît assez logique. D'imagination. On en reparlera dans un instant. Vous voulez dire encore un mot, une ou l'autre ? Ou on passe au suivant, parce que
non, mais
le programme chargé, Elisabeth
Philippe. Non, mais c'est un roman qui s'inscrit aussi, c'est ce que disait Despentes, un roman qui parle d'une France dont on parle peu ou dont on parle mal, dont on commence de plus en plus à parler en littérature. Je pensais à Pierrick Bailly ou à David Lopez. Voilà, le roman de Nicolas Mathieu s'inscrit aussi dans cette tendance-là. Et c'est aussi une bonne chose que la littérature, le roman français, parle de milieux qui sortent un peu du quartier de Saint-Germain-des-Prés.
Oh non, pas vous, Elisabeth.
Pardon, si, j'ai osé le coup.
beaucoup de Saint-Germain-des-Prés.
Non, non, mais pas de Saint-Germain-des-Prés, mais vous voyez ce que je veux dire. Là, je caricature évidemment, mais qui s'intéresse à cette France-là aussi. Et c'est ce qui donne aussi son caractère politique au roman.
Mais c'est le comme au dernier mot.
Non, je trouve ça drôle qu'on puisse imaginer qu'il y ait une sorte de concurrence des sujets. Enfin, d'imaginer que parce qu'on a parlé de la guerre, de la première, de la deuxième, il faut parler maintenant du contemporain. Et de la même manière qu'il puisse y avoir une, au sein même d'une époque, une concurrence entre différents sujets, la France blanche, la France des banlieues. C'est terrible.
Enfin, oui, la littérature semble un peu loin et un peu au second plan, je suis bien d'accord. Oui. Mais ça a été très abordé l'an passé avec les deux prix, donc le Goncourt attribué à Villard et puis Olivier Guez aussi pour son Mengele, le Renaudot. Donc là, on avait l'impression vraiment qu'on ne pouvait pas avoir de prix si on ne parlait pas de la Deuxième Guerre mondiale.
Bon. On parle du contemporain beaucoup dans cette émission pour parler de ces prix littéraires. Là, on parlait du livre de Nicolas Mathieu, donc Leurs enfants après eux, chez Actes Sud, prix Goncourt 2018, à suivre dans la dispute, Idiotie de Pierre Guyotat, Le Sillon de Valérie Manteau et Le Lambeau de Philippe Lançon.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite donc de cette dispute à littérature, un peu particulière, donc puisque nous sommes mercredi, un jour qui est habituellement celui des arts plastiques, et d'ailleurs pour les amateurs d'art exposition, rendez-vous demain, jeudi. Voilà, on a juste permuté. Mais ce soir, donc, résultat des courses, puisqu'on parle de courses au prix, le prix Femina qui a ouvert le bal, autre image, récurrente, l'a bien ouvert lundi en récompensant Le Lambeau de Philippe Lançon, paru chez Gallimard, n'est-ce pas ? Lucille Gaumont.
Oui, alors c'est à nouveau pas vraiment une surprise. On poursuit une forme de palmarès qui est assez incontestable, il faut le dire, du point de vue de la critique. Le Monde a écrit que c'était le livre essentiel d'un immense écrivain. Les journaux soulignent aussi un peu tous le caractère relativement, parce que c'est toujours relatif, accessible du livre. Un de ses plus faciles à lire, une bonne rampe d'accès à son œuvre foisonnante et transcriptive selon Télérama. C'est une manière évidemment de célébrer l'œuvre entière pour tous les journaux, ne serait-ce que parce que le livre est le dernier volet d'une trilogie. Bon, il faut souligner que ça n'a pas toujours été le cas.
Ah oui,
il y a 48
ans. Ah oui, vous parlez d'Idiotie, vous.
Oui, pardon, vous parlez de quoi ?
Non, mais depuis tout à l'heure, on se demande... je parlais de Philippe Lançon, mais c'est bizarre qu'il ait dit ça.
Pardon.
C'est bien, vous n'écoutez pas ce que je dis.
C'est les charmes du direct.
Vous faites partie de cette caste.
Exactement, je n'écoutais absolument
l'ordre.
Pas ce que vous disiez. Non, pas de problème.
Peut-être qu'il faut continuer sur Idiotie.
Non, mais alors, comme vous voulez.
C'est plus simple, allez, continuez sur Idiotie. Ouf, donc je me
disais, j'entendais des murmures dans mon casque, donc je ne voyais pas le rapport.
Bon.
Donc, je continue. Donc, ça n'a pas toujours été le cas dans le cas, en l'occurrence, de Guyotat, puisqu'il y a 48 ans, la non-attribution du Médicis à Eden, qui était à l'époque interdit aux mineurs, à la publicité et qui était aussi l'objet d'une pétition internationale, avait provoqué le départ de Claude Simon du jury. Donc, l'œuvre de Pierre Guyotat acquiert un statut impensable dans les années 70, presque devenu un classique de la littérature et de la langue. Est-ce que ça veut dire qu'il a perdu son pouvoir de subversion et est-ce qu'on peut y voir paradoxalement une toute petite mort littéraire ?
Alors, du coup, ça va me permettre de dire ce que j'aurais dû dire avant, c'est-à-dire situer un peu ce livre, en effet, de Pierre Guyotat. Alors, c'est le seul livre qui s'ancre un peu plus loin encore dans le passé, puisqu'il nous raconte, encore une fois, un moment de sa vie, mais un moment particulier, l'entrée dans l'âge adulte. On va partir de 58 jusqu'à 62, c'est-à-dire de l'arrivée à Paris après les années de pensionnat à Lyon, jusqu'au retour d'Algérie, dont on sait à quel point ça a marqué Pierre Guyotat, voilà, pour faire très vite sur ce livre Idiotie, qui est donc celui dont nous parlons maintenant. Et cette question, est-ce qu'on peut y voir une petite mort littéraire, ou est-ce que l'auteur a perdu de sa force de subversion ?
Ah, c'est pour moi l'interro.
Bah, tout le monde va y passer. Hein.
Voilà, donc ça n'est pas un roman en langue, comme Guyotat désigne des textes comme prostitution. C'est un texte d'une langue alors relativement accessible. Hein,
quand même.
Non. Évidemment, c'est écrit dans un français partagé par chacun d'entre nous. Voilà, mais qui demande une attention à sa syntaxe. Et je trouve ça fondamental, mais c'est formidable de prêter attention à chaque mot.
Ah oui, enfin, j'ai l'impression qu'il est très accessible, ce livre, mais peut-être que
il est beaucoup, beaucoup plus accessible que nombreux textes, y compris des textes autobiographiques comme Coma, puisque c'est donc avec cette veine autobiographique qui s'éloigne de l'écriture en langue. Alors, est-ce que c'est une petite mort ? Je l'ignore. Je suis en tout cas amusée que Gallimard, qu'il soutient depuis très longtemps, ne soit pas l'éditeur récompensé par ce prix Médicis, puisque c'est un petit pas de côté chez Grasset, dans la collection Figure, qui vaut à Pierre Guillotat cette récompense. Le Médicis, à mon sens, joue à plein son rôle, qui est une manière de saluer des textes qui ne sont pas communs, qui appartiennent à une littérature d'avant-garde. C'est de là que vient Guillotat, et c'est quand même là aussi où il continue à s'inscrire. Alors je ne sais pas, en revanche, si Pierre Guillotat a besoin d'un prix à l'âge où il est, au stade de reconnaissance. Enfin, bon, le mot reconnaissance est un peu grotesque pour parler d'un monument pareil, mais j'ai du mal à ne pas vraiment m'en réjouir. Ouais. Enfin, ça me semble difficile de ne pas être heureux que Guillotat jouisse enfin, 46 ans plus tard, de ce Médicis.
Elisabeth Philippe.
Jouir, c'est le mot. Ouais, bah, oui. Bien sûr, ça répond à cette question de Lucille sur la une petite mort littéraire. En tout cas, c'est une petite mort, parce que là, de jouissance et de sexe et de désir, il est énormément question aussi dans ce récit d'apprentissage, donc dans lequel Guillotat revient et sur sa jeunesse miséreuse à Paris dans les années 50 et sur la guerre d'Algérie, qui est quand même au cœur de son œuvre, et notamment sur les 3 mois qu'il a passé au cachot à cause de textes qui lui avaient été reprochés. Et moi, c'est encore... on parlait de la langue, cette langue absolument magnifique. Effectivement, elle demande une attention de chaque instant parce qu'il y a un rythme très particulier. C'est une langue extrêmement charnelle. Et ce que je trouve très... Je sais, ce qui m'a marqué quand j'ai lu Idiotie, c'est la façon dont Guillotat montre comment la politique, la guerre, contamine le désir. Et il y a cette imbrication, cette intrication entre ces thèmes qui est extrêmement bien transmise par encore une fois, par cette écriture absolument superbe. On part presque dans le fantasme aussi, dans ces scènes en Algérie vers la fin du livre. Donc non, quant à savoir si effectivement un écrivain de cette stature a besoin d'un prix, bon, c'est une juste reconnaissance, un prix qui lui a échappé il y a 48 ans, vous le disiez. Non, ce qu'on peut regretter, c'est que dans la liste, il me semble qu'il restait des écrivains, des livres comme celui d'Emmanuel Baya-Maktam, des livres tout aussi originaux, s'inscrivant tout autant dans une certaine forme d'avant-garde, et qui, à mon sens, auraient peut-être eu davantage besoin du coup de pouce d'un prix. Donc c'est le regret que j'émettrais pour ma part. Ensuite, j'estime que oui, c'est assez incontestable.
Incontestable, Étienne de Montedi, ce prix pour Pierre Guillotat et Idiotie.
Ben c'est compliqué parce que si les jurés ne le récompensent pas en disant mais c'est plus la peine, on va leur reprocher à l'infini
de n'avoir jamais couronné à Guillotat.
Donc ils le font à un moment donné parce que ça s'est présenté. Après tout, c'est très très bien. Tout ça très bien, c'est un très bon livre, effectivement, c'était peut-être même le livre qu'il fallait pour le révéler à un plus grand public. Il a atteint une espèce d'équilibre, un style à la fois très, très, très personnel, qu'on reconnaît, un style assez classique, la construction du livre aussi, cette conduite de l'histoire d'un adolescent, ça en fait un livre peut-être pas grand public, mais enfin, c'est un livre très, très accessible, passionnant. Ce titre d'Idiotie qui est un peu insolite parce que, tout simplement, c'est le titre du livre, c'est l'idiot, mais évidemment, c'était pris par quelqu'un d'autre. Voilà, cette espèce de garçon qui, dans sa singularité, notamment dans la deuxième partie de la guerre d'Algérie, est une sorte de grain de sable ou de gravillon dans un système qui fonctionne, le système militaire, le système disciplinaire. Et donc, il explique ça à un moment donné, c'est la figure d'Antigone, la figure du Christ, la figure de celui qui prend la parole, et sa seule parole, que ce soit de protester, de contester ou d'écrire, puisque en l'occurrence il est en train d'écrire, cette seule attitude-là suffit à dérégler, ou le pense-t-il du moins, à dérégler un système très bien fait. Non, c'est un très très bon livre, riche, ample, qui aborde énormément de thèmes. Il y a une réflexion sur Faulkner et le faulknerisme, le sudisme. Il essaie de réfléchir ce que c'est que les Européens ou les Français d'Algérie par rapport à cette identité sudiste. C'est un thème qu'il développe peu. C'est pas un livre de thématique, mais c'est tout à fait passionnant, cette annotation qui est faite à un moment donné, et tant de sujets qui en font un très très bon livre.
Mais son pouvoir de subversion, alors, pour reprendre la question de Lucille Comeau, est-ce qu'il s'est un peu amoindri, selon vous, avec ce livre qui est peut-être effectivement quand même plus accessible que d'autres de Pierre Guillotat? Elisabeth Philippe a fait des gros yeux. Non, 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 non.
C'est un livre très intéressant. ses positions sur le cas d'Algérie, la violence des rapports humains, tout ça est connu. Est-ce que c'est moins fort dans
pense que du fait même, enfin par son écriture même, il reste sur. Ça peut paraître tout à fait bateau ce que je dis là, mais c'est vrai. On est quand même.
On est sur le même bateau alors.
Et j'en suis ravie. Mais on est quand même face à une production littéraire, je trouve, de plus en plus standardisée. Et Guyotat maintient une exigence dans l'écriture qui devient malheureusement de plus en plus rare. Donc en cela, il est subversif, même si, comme il le confiait à l'Obs, il admire Emmanuel Macron.
C'est peut-être devenu subversif, ça, maintenant. Idiotie de Pierre Guyotat chez Grasset, prix Médicis 2018.
La dispute, France Culture. La porte.
Et maintenant, si Lucille Comoin est d'accord, nous allons parler du Lambeau de Philippe Lançon, qui avait donc, je ne vais pas le répéter, mais quand même bien ouvert la semaine. Et puis donc, une sorte de prix spécial, c'est ça, du Renaudot, pour décerner cet après-midi pour ce livre dont on a effectivement là aussi déjà parlé dans cette émission, au moment de sa sortie, au mois d'avril dernier. Lucille, vous êtes d'accord pour être de Philippe Lançon et du Lambeau?
Oui, tout à fait.
Alors, c'est ça.
C'est un livre, donc, du coup, dans lequel le narrateur revient sur l'attentat à Charlie Hebdo, dont il a été une des victimes, quelques jours avant, à plusieurs années après, beaucoup sur sa réparation physique, avec les longs séjours à l'hôpital, et puis les médecins qu'il a fréquentés, et puis la réparation morale qui va avec. Bon, alors là, toute la presse a lu le prix, ultra attendu. Le livre était donc dans un certain nombre de sélections, donc logique que le féminin le récompense en premier, en volant la vedette au suivant. Je ne vais pas citer parce que en fait, il est absolument salué par la critique, un grand texte qui se voit couronné selon Le Monde. Il a déjà été vendu à 110 000 exemplaires, remarque Lopes. Vraiment, les autres concurrents avaient assez peu de chance. Le plus intéressant pour ce qui est de la presse, du coup, c'est surtout la liste dans laquelle il ne figurait pas, celle du Goncourt, puisque Bernard Pivot avait déclaré « Ce roman n'est pas une œuvre d'imagination, c'est un témoignage », je le cite. Ce à quoi avait réagi un certain nombre de personnes dans l'institution, notamment Baptiste Ligère, directeur de la rédaction de Lire, qui compare cette erreur à celle d'avoir mis de côté Voyage au bout de la nuit en 1932. De fait, c'est quand même une gageure à l'esprit critique que de lire, à mon avis, le Lambeau de Philippe Lançon. Je crois que je l'avais dit à cette antenne au moment où on en avait parlé. Est-ce qu'il est vraiment possible de tenir un discours critique sur ce livre? Et du coup, que vaut le prix?
Que vaut le prix? La question s'adresse à Elisabeth Philippe, donc, puisqu'on fait tourner la pire prise de parole ici. Voyons.
Oui, c'est une question compliquée. Je pense aussi que, avant même les prix, les critiques se sont posées la question de savoir comment parler de ce livre. Je me souviens que c'était un des sujets que vous aviez abordé à la dispute quand vous avez évoqué ce livre. J'ai vu un tweet de Claro, contributeur au Monde des Livres et traducteur, qui disait ils ont donc donné un prix à un livre inestimable. Et c'est ce que disait Étienne tout à l'heure au sujet de Guyotat, c'est-à-dire que ce livre ne figure pas dans les listes. On reproche au prix qui s'en passe de ne pas l'avoir inclus. Et ensuite, on se dit, mais est-ce que vraiment il peut concourir dans ces... C'est un livre magnifique. Je vais juste apporter ma voix au concert de louanges autour de ce texte qui est... au-delà même de ce qu'il raconte, un très grand texte sur la littérature, tout autant qu'un texte sur les attentats. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il ait été couronné. Quand une moins bonne chose, les polémiques peut-être qui ont entouré justement son absence au Goncourt, notamment le tweet de Pierre Assouline qui a accueilli, donc Pierre Assouline qui est juré Goncourt et qui a accueilli le prix féminin accordé à Philippe Lançon en se disant « Ah, c'est amusant, je pensais qu'on récompensait des romans, des œuvres de fiction, alors est-ce à dire que les attentats contre Charlie Hebdo étaient de la fiction ?»
Non, c'est vrai, il a écrit
oui,
ça.
Oui, c'est vrai.
Ah oui.
Donc ça, c'est un peu gênant. Et la question a été reposée à Bernard Pivot aujourd'hui. Et on lui a dit, mais dans ce cas-là, pourquoi avoir récompensé Éric Vuillard? Puisque ce n'était pas de la fiction non plus. On parlait de l'Anschluss, de la guerre. Oui, mais a-t-il répondu, Éric Vuillard n'a pas connu Hitler. Donc ce n'est pas du témoignage, c'est un roman historique. Donc on est quand même dans des débats assez oiseux. Est-ce qu'on peut... Que reconnaître à Philippe Lançon, c'est la qualité littéraire, elle est indéniable. Et à ce titre-là, oui, le Lambeau a très certainement toute sa place parmi les prix littéraires et méritait ce prix féminin.
Raphaël Héris.
Et ce prix spécial du Renaudot.
Les deux. Le lambeau donc s'ouvre avec les pages qui précèdent les jours, pardon, qui précèdent la veille de l'attentat. Et à ce moment-là, l'actualité culturelle est autour de Soumission et Lançon met un peu en scène le caractère dérisoire de cette vie d'avant, qui est celle de sa vie de vivant, où on se rengorge de faire l'entretien définitif avec Houellebecq et on va bien l'épiler tous ces débiles qui n'ont rien compris à ce texte. Et ça fait l'ordinaire de sa vie d'avant l'attentat. Et moi, j'avoue que je suis un peu embarrassée quand j'entends ce livre que je pense très grand en dehors de considérations, conjoncturelles. Donc ce texte que je trouve très grand, je trouve ça très embarrassant d'entendre des trucs aussi médiocres autour de lui, et y compris de m'être entendu pérorer sur « tu comprends », comme c'est le féminin qui sera en premier, alors évidemment, ça ira au Lançon. Enfin, ça me déprimait horriblement de faire de la course de petits chevaux autour de ce livre qui est beaucoup plus que cela. Il y a eu des textes sur le Bataclan, par exemple, écrits par des écrivains, et on ne s'est pas demandé s'ils étaient inestimables ou pas. On les a pris notamment pour des témoignages. Je pense que le livre de Philippe Lançon est tout sauf un témoignage. C'est un très grand récit, et il offre un tableau du monde dans lequel on vit que n'offrait pas, le livre d'Erwan Larère, par exemple, qui était paru chez Quidam, qui était un texte, parfaitement estimable et digne, mais aucun d'entre nous ne s'est dit « Ah, est-ce qu'on peut le prendre comme de la littérature ?» Enfin, est-ce qu'on peut le critiquer ou pas ? Donc, je pense qu'il dépasse tout à fait ses considérations et qu'il le méritait. Alors que c'est amusant que le Renaudot ait visiblement oublié cette histoire de calendrier, donc il se retrouve à donner un prix spécial à ce texte. Mais plus il sera célébré, et ma foi, mieux la littérature se portera.
Plus il sera célébré, mieux ce sera, d'autant que Philippe Lançon, que j'ai croisé chez Drouan aussi ce midi, c'est un long déjeuner, disait qu'en fait, ce qui est assez formidable, entre guillemets, c'est, on le voit bien en lisant le Lambeau, l'hôpital français, c'est ça aussi qu'il raconte, est dans un état de délabrement épouvantable. Et qu'en fait, les hôpitaux se servent, entre guillemets, du succès du livre de Philippe Lançon pour essayer de faire venir des fonds, de financer du nouveau matériel, et Philippe Lançon les aide en donnant des conférences. Donc c'est, il y a ça aussi derrière. Donc plus on peut en parler, mieux c'est à tout point de vue.
Voilà. Alors qu'on n'imagine pas que je ne veuille pas donner la parole à Étienne de Montété sur le livre de Philippe Lançon, vous l'avez tout simplement...
J'ai pas pu l'ouvrir, je le dis avec humilité. Voilà. J'étais pris par l'émotion d'où est né ce livre, Les attentats de Charlie Hebdo, et en dépit de beaucoup de choses, de réflexions sur... J'ai entendu et j'ai lu tout ce qui a été dit sur ce livre, mais je suis en capacité physique d'ouvrir ce livre, donc je n'en parle pas. en revanche, j'ai quand même beaucoup suivi tous ces débats qui un peu oiseux et qui montrent quand même l'embarras des jurys au moment de faire un choix, parce qu'après tout, le choix d'un livre, commencer à justifier roman par roman, c'est dans notre genre, c'est pas dans notre genre, je trouve qu'il devrait être quand même beaucoup plus tranchant, c'est notre choix et c'est tout. Et même ces mentions spéciales, je crois que le Fémina a remis une mention spéciale à Guyotta pour l'entendre de son œuvre, et le Renaudot met une mention spéciale. Et alors, on est comme à Cannes, il y a plein de palmes, on ne sait pas bien quelle est la bonne.
Non, il faut
assumer le choix jusqu'au bout, et puis c'est tout, quitte à se tromper au regard de la postérité, mais cette idée de commencer à décerner des mentions pour tel ou tel, c'est le fait même qu'ils ne sont pas à l'aise avec leur propre choix, et c'est dommage, je pense.
Ouais, mais Cannes, on se souvient au mieux de la Palme d'Or. Donc, et il y a des années, on se dit, mais c'est quoi en fait le Goncourt l'an dernier ? Et il faut qu'on cherche sur nos téléphones intelligents pour s'en souvenir. On se souviendra du livre de Philippe Lançon, Le Lambeau, paru chez Gallimard et Prix Fémina 2018. dernier prix en date de cette semaine, c'est le Renaudot, décerné dans la foulée du Goncourt, attribué au livre de Valérie Manteau, Le Sillon. Hein, Le Sillon, c'est comme mot. Aux éditions Le Tripode, Le Sillon Argos, en turc, c'est le titre du journal de Rant Dink, arménien de Turquie ou turc d'origine arménienne, assassiné en 2007 dans une rue d'Istanbul par un jeune nationaliste, la narratrice du livre, qui découvre la capitale turque, qui est surtout là pour être avec son chéri, est une, on va vite le voir, une fausse ingénue qui va chercher à comprendre ce que vit ce pays, et en s'attachant particulièrement à la figure de Dink, le Sincomo, le Sillon, Valérie Manteau.
Oui, alors après avoir feuilletonné leur sélection au fil des mois, après l'affaire Koskaz dont on avait parlé ici, cet auteur auto-édité qui avait fait polémique dans leur première mouture de liste, finalement, les jurés du Renaudot ont choisi un auteur qui ne figurait pas parmi les finalistes, elle était seulement dans la première liste. Alors est-ce que c'est pour récompenser une femme après la série d'hommes récompensés par les précédents littéraires? Pas vraiment, parce qu'il y avait aussi une femme dans leur liste finale. Est-ce que c'est par dépit, parce que Lançon était déjà pris, auquel cas c'est quand même un petit peu gênant, dans la mesure où Valérie Manteau était aussi une proche de Charlie Hebdo, que son précédent livre, ouais, Calme et tranquille, se faisait un autre écho d'ailleurs de l'attentat. C'est assez étrange, et même ça trahit un peu l'auteur elle-même qui, avec l'apparition de son premier roman, avait pris le soin, comme le rappelle Le Monde, d'avancer masqué et de ne justement pas en faire un livre sur Charlie Hebdo. D'ailleurs, de manière générale, c'est cette discrétion et cette finesse que la critique souligne à propos des ouvrages de Valérie Manteau, la pertinence du point de vue. Et cette manière très subtile de travailler l'autofiction entre le réel, l'anecdotique, le travail journalistique et la fiction. Alors, vraiment, comment expliquer cette irruption de Valérie Manteau dans le palmarès final?
C'est de nouveau donc au tour de Étienne de Montetti de prendre la parole.
La réponse, je ne sais pas, il faudra la demander au juré. Mais c'est vrai qu'il y a des échos de Charlie Hebdo dans ce livre, parce que Istanbul sert à l'auteur de ville miroir, au fond. Et il y a un va-et-vient, pas toujours explicite, mais très très intéressant, entre la France et Istanbul, et les tensions internes aux sociétés. Elle se passionne, la narratrice se passionne donc pour ce personnage de Dink, qui est un journaliste qui défendait la cause arménienne, et on sait qu'autour de la question du génocide, cette cause est extrêmement douloureusement vécue en Turquie, et elle fait de la société turque, elle fait de l'évolution du pouvoir turc d'Erdogan. Évidemment, un portrait tout à fait saisissant. On va jusqu'à l'attentat de l'Arena du 31 décembre, qui avait fait une quarantaine de morts. Enfin, toutes ces choses-là sont présentes avec ce miroir, ce qui se passe en France, et après l'attentat de Charlie Hebdo, cette mobilisation. Mais d'autres thèmes aussi, parce que la diversité, par exemple, est au cœur de ce livre, avec les minorités kurdes, la minorité arménienne, la minorité grecque. Ça commence par une sorte de description des origines grecques d'Istanbul et de la partie orientale qui s'appelait la Calcédoine. C'est un livre remarquable parce qu'il épouse beaucoup de genres. Il y a de la chronique politique, il y a du roman, effectivement, il y a une histoire d'amour, il y a une enquête, il y a une réflexion sur évidemment ce que c'est qu'être un intellectuel ou même un artiste dans la Turquie d'Erdogan. Alors quand on dit Erdogan, il y a le président de la République, puis il y a aussi Aslı Erdogan, l'intellectuel qui a été mis en procès il y a quelques mois. C'est un livre aussi magnifique sur la ville, je crois, avant même d'intellectualiser les thématiques de ce livre. Il y a des pages magnifiques.
La nourriture,
mais aussi
toutes les sensualités.
Voilà,
de la ville,
les promenades dans la ville, les quartiers de la ville. C'est une belle histoire d'amour avec cette ville d'Istanbul. Et c'est très très bien que, pour plein de raisons, confuses ou pas, le jury Renaudot ait récupéré, sauvé ce livre pour le révéler à un grand public, puisque c'est un très très beau livre.
Alors, raison, Raphaël Léris, ils ont voulu faire leur malin, comme vous l'aviez dit précédemment.
Tout à fait, je maintiens que le propre du Renaudot est de vouloir faire le malin, et à force de faire le malin dans leur sélection, ils se sont retrouvés avec une dernière sélection où le seul livre qui méritait réellement un prix était le livre de Philippe Lançon, Et histoire de ne pas s'humilier, il a fallu aller chercher quelque chose d'autre. Et je ne vois pas d'autre explication rationnelle au fait d'aller chercher ce livre, ce qui me réjouit à un point vraiment immense. Je suis très très heureuse pour Valérie Manteau, pour ce texte, pour les éditions du Tripode qui l'ont porté très fortement, qui en ont fait le seul roman de leur rentrée littéraire, qui ont vraiment averti sur sa qualité. Donc je suis très heureuse pour eux. Mais pour moi, la seule explication, c'est qu'à force de faire les malins, eh bien, ils se sont retrouvés avec une sélection qui n'était pas primable hors Philippe Lançon. Voilà, et c'est formidable qu'à la fin, ce soit les gentils qui gagnent, la petite maison d'édition, l'auteur de deux livres, donc de Se calmer tranquille aussi, que moi j'ai lu à l'occasion de la parution du Sillon, qui est vraiment un texte extraordinaire autour de Charlie Hebdo, sur ce que c'est que d'être en vie. Enfin, c'est vraiment un texte magnifique et je ne peux qu'encourager les lecteurs à aller voir ce texte réédité en poche à l'occasion de la parution du Sillon.
Et pour continuer à faire les malins, il y a une mention ou je ne sais pas quoi, un des prix du Renaudot, qui est un livre qui avait d'abord été auto-édité. Puis, ils ont quand même réussi à glisser malgré
dans
tout.
Dans la première sélection, il y avait un livre.
Non, mais là, je retrouve une, mais pas Coxas, mais un autre. Ah bon peut-être, c'est peut-être le. Ils font les Renaudot Essai, ça existe.
Mais non, le Renaudot Essai, c'est Olivia de Lamberterie.
Oui, non, ça c'est pas auto-édité, ça. J'ai vu quelque chose.
Il y a un Renaudot Poche.
Je vais chercher. Je vais chercher pendant qu'on va entendre la bonne raison de. D'Elisabeth Philippe pour avoir couronné.
C'est une bonne raison parce que c'est un bon livre, d'une part. Ensuite, à savoir ce qui a conduit les jurés espiègles du Renaudot à le remettre
Vous
en
course. Vous connaissez des gens dedans, non, je crois.
Vaguement. Et je serais bien en mal de pouvoir le dire. Je suis assez d'accord avec Raphaël pour dire que hors Philippe Lançon, il n'y avait rien. N'a sauvé dans la dernière sélection. Ça leur est déjà arrivé, hein, force de faire les malins, l'année où ils sont allés repêcher Scolastique Mukasonga parce qu'il n'y avait rien de.
Ils repêchent bien, le Renaudot.
Ils repêchent bien, donc on peut quand même leur reconnaître ça. Et je suis en tout cas absolument d'accord avec vous tous pour dire que Le Sillon est un très beau livre qui un peu la topographie accidentée des ruelles tortueuses d'Istanbul et en entremêlant effectivement de façon très subtile, le récit, l'enquête, comme si elle nous prenait vraiment par la main dans ces ruelles d'Istanbul et dans l'histoire de la ville, et puis en même temps dans l'histoire de ce pays qui aujourd'hui est vraiment le laboratoire du pire, là où on voit vraiment une dictature en train de se mettre en place. Donc elle montre à quel point tous les derniers bastions de ce qui est un état de droit sont en train de tomber. Et ça, le montre parfaitement bien, mais sans jamais que ce soit démonstratif. On reste toujours dans le récit, d'un point de vue qui nous accompagne, qui nous guide. Et ça, c'est l'un des grands mérites de ce livre, qui est aussi, vous le disiez Arnaud, très, très sensuel, parce qu'il se double cette histoire d'amour avec cette amant turc. Et puis, il y a la nourriture, il y a la ville, les odeurs. C'est vraiment un très beau livre, effectivement, qui forme comme un diptyque avec le premier livre de Valérie Manteau, Calme et tranquille, qui était aussi plein d'une grâce et d'une délicatesse, bien qu'abordant un sujet extrêmement grave et douloureux.
Bon, ça a un peu répondu à vos questions. Mais comment vous en avez d'autres à formuler concernant ce livre de Valérie Manteau? Donc,
non mais quand même, globalement, tout le monde est très d'accord sur tout. C'est-à-dire que ce sont des livres qui font absolument l'unanimité dans la presse. Et parmi vous, je trouve ça assez étonnant, parce que quand on discute de livres ici à La Dispute, on n'est jamais d'accord, quasiment. Là, ce sont trois romans dont on est à peu près tous...
Trois romans ou quatre livres
bon.
Oui. non, mais il y a tous ces livres qui ne sont pas présents. Vous avez cité celui d'Emmanuel Bayamakta Arkady, que vous auriez aimé voir couronner, Elisabeth Philippe. On peut chacun faire une petite liste, comme ça, pour l'instant, des oubliés. Mais bon, on va pas jouer à ce jeu-là. Mais moi, j'aimerais l'oublié de la semaine, quand même. C'est David Diop. Frère d'armes, finaliste des 4 Grands Prix, sauf erreur, publié aux éditions du Seuil. Ça fait longtemps que le Seuil n'a pas eu un prix Goncourt, me semble-t-il aussi.
2014.
Ah, c'est pas si longtemps alors.
Pour Lydie Salvaire, oui.
Ah voilà. Bon, mais avant cela, ça faisait très longtemps. Je pense qu'il ne l'avait point eu, mais bon, ça c'est une autre question. Est-ce que vous avez les uns les autres lu David Diop? Parce que.
Oui.
Alors, qui a dit oui? Raphaël Léris a dit oui. Et Étienne de Montet également.
Oui.
Mais c'est Raphaël Léris qui commence sur David Diop. Quelques mots de votre lecture, des impressions?
Alors, j'ai été très impressionnée par la langue lancinante, répétitive de ce texte, donc qui raconte les tranchées du point de vue d'un tirailleur sénégalais qui s'est engagé là pour être avec son frère d'âme, son ami, son plus que frère avec lequel il a été élevé, qu'il voit mourir au tout début, et parce qu'il refuse de l'achever, comme cet ami l'en supplie, il devient fou. Et c'est une forme de sauvagerie qui s'empare de lui, qui est la sauvagerie qu'ont plaqué sur lui les supérieurs hiérarchiques, et cette sauvagerie sur laquelle il compte pour effrayer les Allemands par ailleurs. Voilà, donc c'est un homme qui devient fou, mais qui se conforte aussi à ce qu'on attend de lui dans cette folie qui s'empare de lui. Moi, j'ai trouvé ce texte, j'ai trouvé sa langue très belle. Alors, j'y suis pas forcément extrêmement sensible, c'est-à-dire que je suis capable de reconnaître sa force, son pouvoir d'évocation et ce caractère lancinant. Après, personnellement, ça n'est pas ce qui m'emporte, mais je trouve vraiment ce texte très, très beau. Il y a, sur l'amitié, pour moi, c'est un beau texte, peut-être plus encore que sur la guerre et sa sauvagerie. Et puis, il y a des pages à la fin qui se passent au Sénégal sur la dernière nuit qu'il a eue avant de partir, que pour le coup, je trouve vraiment très très belle.
Bien, voilà. Bon, voilà un avis très positif, celui d'Étienne de Montetti sur Frères d'âme de David Diop.
C'est peut-être un livre qu'on a trop enfermé dans la thématique de la guerre de 14, au risque peut-être d'en faire un problème, parce que j'ai trouvé que c'était un livre sur la vie. D'ailleurs, les tranchées sont décrites par Diop dans cette langue effectivement très très harmonieuse que Raphaël Léris vient de décrire. Les tranchées sont décrites comme l'origine du monde, le fameux
judo. De loin, notre tranchée m'est apparue comme les deux lèvres entrouvertes du sexe d'une femme immense. Bravo. Une femme ouverte, offerte à la guerre, aux obus et à nous, les soldats.
En réalité, cet univers de la guerre, et bien plus que ça, c'est aussi un lieu d'où sort beaucoup, beaucoup de choses de l'humanité, effectivement, la folie, mais aussi l'amitié, mais aussi l'amour, puisque dans une autre partie du livre, il sera question d'une histoire d'amour, de vie aussi, d'engendrement, et c'est un beau livre, et le sort qui lui a été fait, évidemment, est assez injuste, et ça fait partie de ces candidats favoris de septembre, qui sont, si j'ose dire, les grands blessés du mois de novembre, mais c'est certainement très injuste pour un très très beau livre, très très prenant et très très riche.
Bon, alors moi je l'ai lu là ces derniers jours pour... Vous l'avez lu, Isabelle?
Oui.
Ah pardon, je croyais que vous aviez dit
non. Non, Elisabeth, mais je suis désolée parce qu'en plus je vais briser la belle harmonie qui
est... J'allais le faire, mais d'une façon terrible, comme un obus de 40.
Non, moi j'ai...
Ah, mais j'ai rarement lu un livre aussi pénible.
Ah oui, j'ai pas pu non plus, j'ai vraiment, comme dirais...
Une lourdeur.
J'ai beaucoup souffert sur David Diop.
Horrible. Heureusement c'est pas très long.
Non, c'est pas très long, mais ça m'a paru... Très long.
Horrible.
Non, je trouvais ça très fastidieux, très artificiel, où il y a quelques...
Lourd. On parle à deux voiles, en fait.
Oui.
Ouais, des images, vraiment, enfin celles que j'ai lues sur la tranchée.
Non, c'est scandé par ses expressions, par la vérité de Dieu. Non, j'y ai pas du tout été sensible. Alors, je sais que d'autres personnes à l'Obs l'ont beaucoup aimé, mais alors moi, ça m'est totalement tombé des mains. Et en plus, je trouve que c'est pas du tout incarné, contrairement à ce que vous disiez. J'ai vraiment l'impression de...
C'est pas incarné, c'est un conte.
Oui, ce que alors, dire, ça déjà, ça
c'est que la guerre n'est qu'un décor
propre à me le rendre plus
après,
sympathique.
Après, c'est réussi ou pas, mais...
Non, ouais. c'est vraiment juste la carcasse de la guerre. Voilà, on a les grands thèmes, mais il n'y a rien dedans, rien.
Ouais. Moi, j'ai attendu presque l'avant ou l'antépénultième chapitre pour être un tout petit peu intrigué, mais c'est page 155, j'ai noté ça. Le livre en fait 175, donc c'est quand même... Il y a quelque chose d'un peu mystérieux
qui
se produit.
Parce qu'en plus, la Première Guerre mondiale vue par un tirailleur sénégalais...
Ouais.
Très bien, parce qu'effectivement, on a peu lu dans des livres d'histoire, mais là, ça ne suffit pas à donner un bon
Je crois que ça n'est
bon
pas le thème.
Quel que soit le thème, c'est la langue qui pose problème.
C'est très symbolique, il y a les sept mains coupées, etc. On pense qu'on veut, mais c'est pas du tout un roman où un tirailleur serait confronté à la guerre.
Non, mais c'est extrêmement répétitif.
Pas Biden, là, avec son grand livre, avec un Indien dans la guerre. En fait, ces thématiques ont été traitées de manière plus romanesque que celle-ci.
Le répétitif est...
Après, sur la réussite, ça, c'est...
Quelqu'un a souffert aussi autour de cette table.
que c'était vraiment pas une
quelqu'un
réussite.
A souffert autour de cette table, c'est Lucille Comeau. J'aimerais qu'on lui donne la parole. Vous avez eu David Diop, frère d'âme, et donc vous êtes dans notre équipe plutôt. Hein.
Dans le jury de la dispute, on était deux contre deux, et le, la présidente qui a voix contre double est en train de faire basculer, et Diop va être encore ce soir le grand perdant de cette saison littéraire.
Non, mais moi je trouve qu'il perd, justement par l'impuissance totale du récit, à mon avis, et c'est ce que souligne beaucoup la presse. Pour le coup, j'ai fait un peu la même revue de presse que sur les autres livres, et c'est le mot qui revient, la puissance narrative, la puissance du style. Moi, je trouve que vraiment le cliché retourne entièrement le propos du livre contre lui-même. Et toute la question du retournement de la sauvagerie, qui sont des choses qu'on a déjà beaucoup lues, à la fois dans des livres d'histoire et dans des romans justement sur la guerre, parce que je pense quand même que c'est un livre sur la Première Guerre mondiale, c'est des choses qu'on a déjà tellement entendues que dit comme ça, dans ce style-là, c'est trop artificiel et ça annule absolument, à mon avis, la puissance du récit. Et je trouve ça même assez terrible comme livre. Je pense même qu'il mime un peu une langue. Enfin, il y a quelque chose de pas clair dans les intentions, à mon avis. Mais bon.
Comprenez notre épuisement finalement face à ce court texte, non?
On peut passer à côté d'un texte, hein. c'est pas grave.
Ne faites pas votre Georgescu.
C'est pas grave.
Il y a d'autres romans plus violents, Flo.
Oui,
chacun ses mauvais goûts.
Mon frère d'âme, livre pénible. Et puis.
Mais vous êtes monstrueux, le pauvre. Il s'est réveillé ce matin, persuadé qu'il allait être couronné.
Ça fait 4 jours qu'il se réveille.
Non, mais il a eu
la presse régionale dit le palois David Diop, toujours encore perdant.
Mais il a quand même eu de très 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 bons articles.
Oui, hein, une révélation
il a été
de la rentrée,
voilà exactement. Donc je pense
qu'il à propos des révélations de la rentrée, alors il se trouve que il y a deux seconds romans qui ont eu des grands prix cette année 2018, mais celle qui avait fait l'enquête sur les 93 premiers romans est là, et c'est une chose que vous aviez noté aussi, Lucille Comeau, dans votre préparation.
Presque plus de premiers romans. En même temps, par exemple, j'allais dire Diop, mais en fait, considère que c'est son premier roman, mais il a pas eu.
C'est le deuxième aussi, lui.
Voilà.
Comme Nicolas Mathieu, comme Valérie Manteau, et comme.
Ouais. Non, il y a des prix pour les premiers romans. Il y a le Goncourt du premier roman, il y a le prix du premier roman. Et parfois, quand le Goncourt récompense un premier roman, on leur dit, mais que va-t-il rester pour le Goncourt du premier roman?
Donc, ouais.
Après tout,
il y a qui pour...
Oh, il y aura le Goncourt des lycéens qui ira probablement à Ligne Dieudonné. Là-dessus, je ne suis pas très inquiète sur les premiers romans. Enfin, s'il faut être inquiet.
Mais écoutez, il y a aussi le prix France Culture Roman des étudiants. Et Nicolas Mathieu fait partie de cette dernière sélection. Est-ce qu'il aura un magnifique doublé? Non, il a déjà eu d'autres prix par ailleurs. Mais nous ferons une émission spéciale dans, je crois, 3 semaines, à Lucille Comeau, semble-t-il.
C'est le 29 novembre.
Voilà, avec 4 des étudiants jurés de cette nouvelle édition du prix France Culture Roman des étudiants. Et nous débattrons de chacun des 5 livres.
J'espère qu'il y aura plus de débats.
Là, on va l'organiser pour savoir qui a aimé quoi, qui n'a pas aimé, pour essayer de faire des confrontations. Alors, écoutez, là, c'est l'actualité qui nous a guidés, comme chaque année, pour faire cette émission spéciale consacrée au prix littéraire. Du coup, finalement, on ne parle plus jamais du Grand Prix de l'Académie française, qui est le prix du roman. C'était qui déjà ?
Camille Pascal.
Alors, ça, j'ai pas lu. Garçon ou fille, Camille Pascal ?
Garçon. Ancien conseiller de Nicolas Sarkozy.
Au conseiller d'État. D'accord.
C'est l'été des 4 rois.
Ouais. Mmh.
C'est l'été où la France passe de la monarchie de Charles X à celle de Louis-Philippe. C'est une reconstitution très très minutieuse de ce temps où la France bascule d'un régime monarchie absolue à un régime de la monarchie parlementaire.
Mais c'est beau quoi, comme du Max Gallo.
C'est très Académie française. Alors on a entendu persifler du côté de l'Isabelle Philippe.
C'est une reconstitution historique très minutieuse à partir de tout ce que la littérature de l'époque a produit.
Vous voulez pas en dire du mal, Étienne, je le sens.
Pas du tout. Moi, j'ai pris un grand plaisir à lire.
Voilà, dites-le alors.
J'ai pris un grand plaisir à le lire à cause de justement cette reconstitution très minutieuse d'un moment où la France change, où la banque, la presse commence à prendre un rôle dans la vie politique de l'époque. Et c'est puiser aux meilleures sources de Chateaubriand à Stendhal en passant par Alexandre Dumas.
Mais je suis sûr que Raphaël Léris le garde pour les fêtes de fin d'année, ce livre-là. Hein, parce que la rentrée évidemment de Jean-Bénig a été annulée, en fait. Vous êtes au courant.
Quelle bonne nouvelle.
Quelle bonne nouvelle. Non, pas pour celles et ceux qui seront publiés. Merci infiniment d'avoir joué le jeu de cette émission spéciale Prix littéraire. Et puis on renvoie bien sûr au podcast des émissions que nous avions consacrées à Idiocy, au Sillon. Et à au Lambeau de Philippe Lançon. Il y a des prix aussi dans la dispute, puisque chaque soir, nous mettons finalement des prix en jeu. Le cadeau de la dispute, on rappelle d'abord la question du jeu d'hier au soir avec Sarah Dion qui nous a rejoint et qui va nous donner non seulement la question, mais la réponse du jeu d'hier.
La question était: comment nomme-t-on la musique traditionnelle instrumentale des Juifs ashkénazes? Et la réponse est le klezmer.
Ce soir, des places de cinéma gagnées pour un film dont nous allons parler nous vendredi dans la dispute. Le film, c'est High Life de Claire Denis qui est sorti aujourd'hui sur les écrans. Quelle est la question, Sarah?
Quel est le nom du dernier film de Claire Denis dans lequel jouait également Juliette Binoche?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. C'est le site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions, vous pouvez vous abonner au podcast. Demain, donc exceptionnellement, on a un permuté de jour, demain jeudi, art plastique dans la dispute. Avec Anaël Pijat, Stéphane Coréard et Florian Guettet, nous parlerons de l'exposition Picasso Bleu et Rose au musée d'Orsay, du prix Marcel Duchamp, exposition jusqu'au 31 décembre au Centre Pompidou, et puis Mathieu Pernaud, La Santé au 104 Paris, et un coup de cœur de Stéphane Coréard pour l'exposition Jean-Michel Alberola.